Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, Ambient Memory, l'interview. Avec ce soir, un artiste nantais qui vient nous présenter son projet Ambient. Tom Leclerc est un artiste, chercheur et musicien. Il partage sa vie entre ses études qu'il vient de terminer et la musique électronique, plus particulièrement l'ambiante. Il nous parlera de ses expériences, de ses productions, mais pas que. Bonsoir Tom.
Salut, bonsoir.
Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Ambient Memory. Donc, comme je le disais il y a quelques instants, tu es un musicien-chercheur, donc qui dit musicien, dit peut-être que tu joues d'un instrument en particulier.
Ouais, moi je fais du piano. J'ai une formation assez classique de piano. Ce qui est assez pratique après quand on joue du synthétiseur, c'est qu'on a des facilités de composition, c'est plus immédiat en tout cas.
Formation de pianiste, tu t'es mis au synthé, au synthétiseur, au modulaire. Est-ce que justement le modulaire c'est en autodidacte ou tu t'es formé ?
Non, c'est complètement en autodidacte et j'avoue que ma formation m'a bien aidé à m'orienter et à comprendre pas mal de choses de ce côté-là. Globalement j'ai vraiment tout appris tout seul avec internet, avec des vidéos YouTube, etc.
D'accord, depuis combien de temps tu t'es lancé justement dans la musique ambiante ?
J'ai commencé la musique ambiante à peu près en même temps que j'ai commencé à faire de la musique modulaire. Donc au même moment où j'ai commencé à avoir des synthétiseurs. Donc ça doit faire 4-5 ans à peu près.
Est-ce qu'il y a justement des artistes qui t'ont inspiré pour justement te mettre au modulaire et plus particulièrement à la musique ambiante ?
Ouais, je pense qu'il y a, il y a d'abord un passage de quand on joue des morceaux et on joue ces morceaux. Donc il y a eu le premier passage, c'est plutôt comment j'ai commencé à faire de la composition musicale. Et c'est avec Niels Frahm, surtout, que j'avais découvert quand j'avais 13 ans. Et qui m'a un peu poussé, en fait, à moi-même composer déjà au piano de la musique. Par la suite, quand on commence, en fait, à diguer du son avec des artistes comme Niels Frahm ou des artistes un peu de niche comme ça, on commence très vite à aller dans la musique expérimentale, dans l'ambiance, etc. Et moi je pense notamment à Austin Cairns, qui s'appelle aussi Herbeny, ou Anani, ou Lightbass, qui sont en fait des artistes qui faisaient des vidéos YouTube. Donc moi j'avais quand je commençais la musique modulaire, je voulais découvrir cette musique-là, et d'avoir des vidéos comme ça. Ça me permettait de voir ce qu'ils avaient, de comprendre leurs mécanismes de composition ou de juste d'écriture. Donc ces artistes vont vraiment, vraiment marqué. En plus, j'adorais leur musique. Et la plupart du temps, ils jouaient aussi dehors, en extérieur, pour faire des vidéos un peu performance comme ça. C'était pas vraiment des tutos, c'était vraiment des vidéos de morceaux ou de performance. Et donc leur musique m'a particulièrement touché.
Du coup, on associe Tom avec le modulaire. Est-ce que c'est un petit peu ta signature ? Ou est-ce que tu as aussi, tu utilises d'autres instruments ou de matériel justement pour faire des lives ou de la composition ?
On m'associe à ça parce que même scéniquement, le modulaire a quelque chose d'assez, d'assez extraordinaire. On a cette espèce de machine avec plein de fils. Les gens, ils sont moins sensibles à qu'est-ce qui va faire du son là-dedans, etc. Moi en live souvent on vient me voir après d'où viennent les samples etc, alors que c'est vraiment un synthétiseur qui génère le son, même si c'est pas que de l'analogique, il y a du digital etc, tout le son est quand même généré par le synthétiseur modulaire, même si dans mes albums etc il y a quand même beaucoup de piano, j'ai d'autres synthés, j'ai un Prophet 6 par exemple que j'utilise beaucoup, je fais aussi beaucoup de prises de son de la nature, du field recording que j'agrémente soit dans mes lives, soit dans mes morceaux, qui viennent ponctuer un petit peu la musique. Et aujourd'hui, on me reconnaît plus quand même à ma musique modulaire qu'au reste, même si j'aimerais beaucoup faire des lives, genre piano modulaire par exemple, avec le piano qui est retraité par le modulaire. Ce qui laisse quand même une grande élasticité avec le modulaire, c'est que déjà il est modulaire, comme son nom l'indique, et il a une force de son qui est assez large. Je peux faire de l'art techno comme de l'ambiante juste avec la même machine. Et aujourd'hui, je m'intéresse un petit peu plus à comment je peux traiter d'autres machines avec le modulaire, comme des effets, etc., que en mode génération, parce que là, par exemple, je suis en train d'écrire un live où je mixe sur cassette ou vinyle et tout le son est retraité et remixé en live par le modulaire. Donc il y a un aspect un petit peu direct comme ça, et très live que j'aime et qui est hyper intéressant sur cette pratique live en tout cas, ou performance.
Thank you.
D'accord, donc il n'y a pas vraiment d'impro, enfin, tu as quand même une certaine préparation, comme tu me disais, où il y a quand même une part d'improvisation dans les sessions que tu peux faire.
Ouais, alors ça dépend. Si je fais que du modulaire, par exemple, ça dépend du style, etc. En ce moment, les lives que je fais, il y a de la lumière en plus. Peut-être qu'on en reparlera un peu plus, mais je rajoute de la lumière et cette lumière réagit au son du modulaire. Donc là, toujours pas d'ordinateur, c'est que le synthétiseur modulaire. Et là, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'écriture en amont sur comment je vais emmener les lumières, quels morceaux vont être associés à quoi. Mais quand je fais purement de l'ambiante, donc ce set-là dont je parle avec la lumière est plus électro, il y a des drums à des moments qui sont séquencés, donc ça c'est préparé à l'avant. Quand je fais de l'ambiante, c'est beaucoup plus ouvert à l'improvisation et j'ai fait beaucoup de live où j'avais rien et tout est sorti en live de la machine sans aucune préparation préalable. Même si du coup je joue beaucoup avec ma machine, j'improvise beaucoup et du coup je la connais très bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patchs, donc les patchs c'est quand on branche les câbles et cette composition de câbles branchés c'est un patch. Nous dit un petit peu quelle tonalité va y avoir, quel son va y avoir, et ça il peut y avoir des redites, etc. Mais la plupart du temps en termes d'harmonie, etc., c'est très improvisé. Mais encore une fois, ça dépend du style. Sur l'ambiance, c'est beaucoup plus facile de faire durer un drone, par exemple, faire durer des petites mélodies, etc. Quand dans l'électro, si on laisse durer trop longtemps une séquence rythmique, par exemple, il y a quelque chose qui s'installe qui n'est pas vraiment ce que moi, je veux faire ressentir aux gens. Donc, il y a beaucoup plus d'écriture dans ces lives-là.
D'accord, est-ce que c'est aussi une question d'humeur ? Tu vas faire des choses plus tristes si toi-même tu es triste, des choses plus joyeuses si tu es joyeuse. Ça marche aussi comme ça, selon ton humeur ou pas du tout ?
Selon l'humeur, oui, beaucoup. Moi, j'aime bien dire que j'explore un petit peu les sentiments humains et comment, en fait, dans la musique, on peut retransmettre ce qu'on ressent dans l'immédiateté et à quel point tu peux transmettre ça aux gens aussi. Il y a un peu ce truc-là, moi, je le fais, moi, je le ressens. Mais est-ce que les gens vont le ressentir aussi ? Et moi, je travaille beaucoup sur les lieux aussi dans lesquels je suis et qu'est-ce que ça me fait dire, en fait, avec mon instrument. C'est pour ça que je fais beaucoup de sessions en pleine nature, c'est parce que c'est là que ça m'inspire vraiment, en fait. C'est les couleurs, c'est même l'hydrométrie extérieure, tu vois. Il y a un truc, quand il fait froid, je vais avoir tendance à presser un peu plus les choses. Quand il fait nuit, il y a moyen de créer des ambiances différentes que quand il fait jour, par exemple, aussi. Il y a aussi le moment de la journée, du coup. Il y a la lumière, il y a le moment de la journée. J'ai fait certains lives, soit le matin, très tôt, au lever du soleil, soit juste après manger. Et c'est aussi comment on vient accompagner le public dans ces moments-là. Sur des moments digestifs, par exemple, on va moins faire danser les gens, on va plus les accompagner dans ce moment-là. Et du coup, il y a un vrai lien direct entre les émotions, le ressenti et la musique.
D'accord, ça peut être aussi bien une sieste musicale qu'un concert classique. Est-ce que tu as plutôt fait des gros concerts ou des choses plus intimistes ? Et puis, si tu as fait un petit peu les deux, quelle était ta préférence ?
Ouais, moi, j'ai un parcours un peu bizarre parce que j'ai commencé par des gros concerts et des gros festivals. Moi, j'ai fait Scopitone à Nantes. J'ai fait un festival qui s'appelle Electron Libre aussi, maintenant festival. Et aujourd'hui, je m'oriente beaucoup plus sur des configs intimistes, ou en tout cas où le lieu a autant d'importance que le public, etc. Donc c'est des lieux dans lesquels ma configuration est modulable, mais dans lesquels je peux m'installer, je suis assez proche du public. Il faut que je me sente aussi bien et pas stressé. Et j'aime pas avoir ce décalage artiste-public avec l'artiste sur la scène, etc., que j'ai déjà fait et que j'aime beaucoup moins que être au milieu du public, par exemple, en mode son 360 presque, mais même où il y a une espèce de U qui se forme autour de l'artiste, où les gens peuvent voir ce que tu fais au modulaire ou au synthétiseur. Donc moi, je suis beaucoup plus config intimiste. J'aime beaucoup jouer dans des shops aussi. J'ai joué dans un coffee shop, par exemple, où il devait y avoir 40 personnes à peu près. Mais en fait, c'est des lieux où l'acoustique est pas pensée pour la musique et on découvre des choses. J'ai découvert que en fait, jouer dans des magasins de vêtements, c'était génial pour le son qui était très étouffé, très mat, et t'as l'impression de jouer en studio. En fait, il y a un truc qui est vraiment impressionnant. J'aime bien jouer dehors aussi. Et vu que ma config, ça je l'ai assez peu testé, mais elle est étudiée pour, peut être autonome en énergie. Le fait d'avoir une batterie, d'avoir des enceintes, etc. Faut pas que ça consomme trop, donc c'est souvent des petites enceintes, donc pour un public avec une portée plutôt minime. Donc là, tout de suite, ça change un petit peu des grosses scènes avec des gros systèmes son, etc. Et là, c'est pareil, il y a beaucoup moins de personnes, et moi, j'aime pas faire déplacer trop de gens pour les concerts, pour l'impact écologique, etc. Et aussi, vu que je joue en nature, il y a des lieux où plus il y a de personnes, plus ça le détruit. Donc il y a un peu ce truc-là de moins il y a de gens, plus ça reste aussi extraordinaire. Et vu que c'est une session improvisée, souvent c'est des moments qui restent quand même gravés dans les mémoires.
Alors là, une question peut-être un peu difficile. Quel aurait été vraiment ton concert parfait? Tu me disais que tu jouais dans des coffee shops, dans la nature, en pleine montagne. Quel est le concert parfait?
Le concert parfait, il y en a. En fait, il y en a plusieurs, je crois. On va faire large. En fait, c'est. Je l'ai écrit et c'est une proposition en plus que j'ai. Ça s'appelle Ambient Tales. C'est d'amener les gens dans un lieu extraordinaire. Donc là, ça peut être très très large parce que le lieu influe beaucoup sur la musique, etc. Mais ça peut être en forêt, genre monter une montagne, gravir une montagne avec des gens, avec le public, et s'installer en haut pour faire un concert. Ça, c'est des trucs que j'aimerais faire. Ça peut être dans un bateau, par exemple, tu vois. Des lieux ou dans lesquels on s'attend pas à avoir une proposition musicale. Et ma proposition musicale est assez complète parce que c'est une proposition audiovisuelle. C'est-à-dire qu'on va avoir tout un setup lumière qui va s'installer, qui va réagir à la musique. Et la musique que je fais, ça sera plutôt un concert entre improvisation et musique électronique. Et en fait, j'aime bien accompagner les gens au début ambiante et petit à petit essayer de faire danser les gens, en fait. Parce que j'ai un regard sur la fête, etc., que j'aime aussi quand je fais des festivals, etc. Et j'ai aussi envie de pouvoir transmettre ça, tout en ayant ce truc-là, d'ambiance, d'accompagner les gens dans leurs émotions, leur faire ressentir des choses. Donc c'est un peu ça, le live parfait, c'est aller avec des gens dans des endroits dans lesquels ils s'attendent pas, en fait. Avec un concert intimiste, proposer une expérience.
Tu parlais vraiment d'amener les gens sur des lieux, donc tu parlais aussi tout à l'heure de faire des concerts en toute autonomie avec une batterie. Justement, est-ce que au niveau de la logistique, c'est pour le transport, tout ça, c'est assez facile. Donc c'est des petits éléments. Tu parlais de petites enceintes, donc j'imagine que la batterie, comme le modulaire, tout ça. Enfin, tu as une logistique qui te permet vraiment d'aller dans des endroits peut-être un petit peu difficiles d'accès, enfin, dans la mesure du raisonnable. J'imagine que tout est calculé, si je puis dire, pour une logistique parfaite pour pouvoir aller dans des lieux un petit peu insolites.
Moi, j'ai un système qui s'appelle Pile, que j'ai développé, qui me permet en fait d'alimenter toute ma petite configuration avec des petites batteries, des batteries d'ordinateur. Ça permet notamment d'alimenter le synthétiseur modulaire. Donc là, moi, j'ai plusieurs cases. Donc les cases, c'est les synthés dans lesquels il y a les modules, avec plusieurs configurations, une plus ambiante, une moins ambiante, qui permet d'alimenter une de ces cases, peut-être un synthétiseur en plus, les enceintes, le petit mixeur, si j'en ai besoin, et toute la scénographie lumière. Donc ces cinq éléments, on va dire, ont besoin d'être alimentés souvent en basse énergie, donc en 12 volts par exemple, ou en 15. Mais du coup, on n'est pas sûr, j'ai pas besoin de ramener une grosse batterie avec du 220 volts sinusoïdal qui sort, comme ce qu'on a sur les prises classiques. Donc là, déjà, il y avait une petite réflexion de ce côté-là sur l'énergie. Et sur qu'est-ce que j'emmène, j'ai aussi conçu un système lumière que je suis en train de documenter en open source d'ailleurs, pour justement avoir ce truc-là d'audio réactif qui est composé de 4 barres LED de 1 mètre, avec des pieds de micro qui les tiennent en fait, pour avoir un truc qui monte assez haut, etc., avoir différentes configurations. Et également des petits pieds de lumière avec des grosses ampoules comme on a chez nous, des bulbes, qui fonctionnent aussi en 12 volts. Donc il y a un truc assez rétro en fait d'avoir ces gros bulbes qui sortent du sol par des piquets presque. Donc ça c'est hyper portable parce que tout est démontable. Donc je peux emmener ça en pleine montagne sans problème. Tout seul c'est un peu difficile, même si j'ai des configs où je peux vraiment le faire tout seul, il n'y a aucun souci. Mais souvent moi j'ai une équipe, j'ai une association qui s'appelle Moss Explorer, où en fait on est trois explorateurs. des arts, si on peut dire. Moi, je fais de la musique, un peu de réal vidéo. J'ai un de mes potes, Nathan, qui fait du dessin et qui fait toute la direction artistique, un petit peu visuelle en tout cas, de mes projets et de projets de l'association, qui sont très très liés, et qui est photographe aussi. Et Eric, qui est vidéaste, photographe. Donc à trois, comme ça, on peut investir des lieux, monter une scéno, écrire un spectacle, et aussi le filmer, le documenter, etc. Donc on a tout ça qui se construit, et leur aide est assez précieuse en fait quand on monte en altitude, en montagne par exemple, pour porter tout le matériel. Les batteries, c'est assez lourd, le synthétiseur, etc. J'ai toujours un peu d'aide, même si là par exemple... J'ai fait quelques vidéos pour ma chaîne YouTube où je vais sur la corniche vendéenne filmer des petites performances. Quand il y a un plan de cam, juste mon synthétiseur, il n'y a pas le système son, je suis assez autonome en fait. Mais quand il s'agit de concert, là j'ai besoin souvent d'un petit peu d'aide logistique, surtout dans le transport, parce que de ma fonction d'ingénieur, je maîtrise à peu près tout le reste. Aujourd'hui, j'ai quasi une formation d'ingénieur du son aussi, je peux faire les réglages, etc. Donc, je suis assez autonome de ce côté-là.
Thank you.
D'accord. Ce système PIL, c'est quelque chose que, enfin, c'est toi qui l'as conceptualisé ou c'est un système qui existe déjà?
C'est basé sur des systèmes qui existent déjà, mais c'est jamais pour les synthés, etc. En fait, moi, j'ai commencé ma notoriété vient un peu de ça, c'est que j'avais un mini système modulaire et je jouais sur batterie en pleine nature, quoi. Donc c'est un peu ça qui m'a lancé, et depuis ce jour-là, en fait, tout le monde me demande comment je fais pour alimenter mon synthétiseur, etc. Alors, il n'y a rien de complexe là-dedans, en plus. C'est comme si on avait un chargeur d'ordi portable ou quelque chose comme ça. En fait, c'est très simple. Le système se compose d'une batterie qui existe sur le marché avec une sortie à courant continu, variable. Et de ce courant continu, soit je le sépare dans toutes les machines, soit j'ai plusieurs batteries, etc. Mais ce que j'offre avec PIL, en fait, parce que je suis en train d'écrire des articles là-dessus pour que les gens puissent le reproduire chez eux, c'est surtout comment on alimente les synthétiseurs, quelles sont les batteries à avoir, quels sont un petit peu les courants qui existent, etc. C'est plus de la vulgarisation, ce système, qu'un système technique à part entière, parce qu'il n'y a vraiment rien de sorcier. Il n'y a pas vraiment de briques électroniques que j'ai conçues, même s'il y en a quand même que j'ai conçues, c'est pour un autre système. En fait, plus j'ai d'éléments, plus ça devient complexe et plus j'ai dû développer des choses. Mais quand il s'agit juste d'alimenter le synthétiseur, il n'y a aucun problème. Le synthétiseur, son entrée, c'est entre 12 et 34 volts. Il suffit d'une batterie qui ait cette sortie-là et puis c'est parti, en fait. Il n'y a pas de réelle complexité de ce côté-là. Et PIL décrit plutôt le système autonome pour synthétiseur, axé sur les synthétiseurs, quelles sont les erreurs à ne pas faire, etc. Et comment je conçois, moi, mon système entier. C'est plus mon système qu'un système qui est universel, en fait.
D'accord, donc c'est vraiment une notice précise de l'utilisation alors de ce système. J'imagine que la crise sanitaire étant passée par là, ça peut être aussi modifié ta façon de jouer, ta façon de faire des concerts. J'imagine que ça n'a peut-être pas été évident.
Ça n'a pas été évident parce que, comme je disais, moi j'ai fait beaucoup de gros festivals, etc. Et la crise du Covid est arrivée. Et du coup, j'ai eu un peu un parcours d'artiste émergent. La Covid est arrivée et je suis devenu artiste plus installé. Et du coup, aujourd'hui, c'est plus difficile d'avoir des dates, etc. Je suis un peu dans la jungle des artistes. Et je suis moins considéré comme un artiste émergent parce que le temps a passé avec la crise, etc. Et le projet a quand même maturé pendant la crise. Parce que l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai toujours proposé des concerts intimistes qui, aujourd'hui, deviennent de plus en plus à la mode, notamment avec le Covid, où les jauges très réduites faisaient qu'on était obligé de faire ça pour se produire, etc. Et vu que j'ai toujours été sensible à ça et toujours eu ce discours que c'était important de remettre ce convivialisme dans les performances, dans les concerts, etc. En fait, moi, ça m'a juste aidé dans le fait que les structures, etc., soient plus sensibles à ces formes de propositions que ça m'a mis des bâtons dans les roues. En
fait. Au niveau du public, j'imagine que du coup, ils sont peut-être plus faciles à emmener parce que le fait d'avoir été confiné, tout ça, justement de proposer des concerts, des siestes musicales, ça a été vraiment, entre guillemets, une délivrance pour eux, peut-être aussi pour toi, parce que de pouvoir reprendre les concerts, comment ça s'est passé, comment tu ressens le public, est-ce qu'il est plutôt réceptif, est-ce qu'il est facile à emmener dans ton univers suite à ces événements ou pas?
Je ne saurais pas trop dire si c'est à cause de la crise ou pas, mais déjà, la musique ambiante a un peu émergé avec la crise, par plein de phénomènes. Je pense que les gens étaient chez eux, ils avaient envie d'un peu d'extérioriser beaucoup de choses. La musique ambiante a ce truc-là un petit peu de porteur de messages, et c'est presque une musique très visuelle, en fait. On voit beaucoup de choses quand on écoute cette musique, il y a beaucoup d'émotions qui passent, de messages et même de lieux qui peuvent être transcrits en musique. Il y a un truc qui est un petit peu magique. Et les gens étaient plus sensibles à ça, même si en France, en tout cas, la proposition en ambiante est assez limitée. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a partout, tout le temps. Il n'y a pas de scène spécialisée dans l'ambiante. Et en fait, amener les gens dans ces concerts où on propose c'est de la musique contemporaine, en fait, de la musique alternative... Les gens sont tout de suite très réceptifs parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux, c'est pas désagréable, etc. Donc il y a un truc, moi j'ai toujours réussi à amener mon public, et aujourd'hui de plus en plus parce que j'ai cette petite notoriété qui fait que je peux réunir un peu plus de monde, donc il y a un petit peu des mécanismes qui se font de ce côté-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, quand ils viennent me voir, c'est souvent qu'ils sont pas sensibles à l'ambiance forcément, et qu'ils viennent voir une nouvelle expérience. Et après ça, souvent, les gens redemandent en fait ce type d'expérience. Donc moi, mon public, c'est plutôt à chaque fois de la découverte qu'un public qui est vraiment averti sur ce qu'est l'ambiance. Mais notamment parce que moi, je joue à Nantes, mais je joue aussi en Vendée, pas trop loin de chez moi, où le public est beaucoup moins gentrifié qu'à Nantes, en fait, où dans les grandes villes, les gens sont beaucoup plus sensibles à plein de propositions artistiques, qui sont très variables, qui sont permanentes aussi. Donc il y a un peu ce truc-là de quand je joue à Nantes, le public est vraiment différent. J'ai des gens qui font du synthé, qui viennent, etc. Juste parce que je fais du synthé, et du coup ils viennent aussi voir parce qu'il y a quelqu'un qui fait une performance au synthé, quoi.
Tout à l'heure aussi, tu nous parlais de ton association Most Explorer. Elle existe depuis longtemps. Quel a été, je dirais, le déclic justement pour mettre en place cette association? Comment ça s'est passé?
On se connaît depuis le lycée avec mes copains là, et on a décidé, on va souvent en Auvergne en fait, ensemble. Et une année, on a décidé d'y aller à trois en mode on y va et on fait une résidence, et en fait, on fait des t-shirts, on fait un album, et on mesure l'énergie que tout ça nous a coûté. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on avait un petit gîte. On a mis un wattmètre sur une prise et on a branché tout ce qui était lié à notre art dessus. C'est-à-dire tout le studio était branché là-dessus. Pour recharger les batteries de drone, appareil photo, iPad, tablette, téléphone et tout, tout était là-dessus. Et en 5 jours, on a dû consommer, je sais plus, 3 kilowatts, un truc. Ce qui est l'équivalent de, je sais plus, à peine 1 heure de bouilloire ou un truc comme ça. Tu vois, un truc, c'est assez ridicule par rapport à tout ce qu'on avait branché dessus. Et du coup, on a fait un film sur ce work in progress, des randos, de comment moi je m'installe en pleine nature, comment on choisit les lieux, etc. Tout l'aspect post-prod, un petit peu, le dérushage, l'écriture de la musique, le mixage, le dessin, même la cuisine, les bons moments, etc. Et après ça, on s'est dit, mais en fait, il serait temps qu'on se fasse une structure administrative pour aussi faire des expos, proposer des projets plutôt à trois qu'avec ma pratique musicale solo. Donc c'est ainsi que l'association est née. Et aujourd'hui, l'association, elle a un peu mûri parce que ça fait 2 ans, ça déjà. Et elle a mûri parce qu'aujourd'hui, c'est plus un exploratoire que juste un collectif d'artistes. C'est plutôt un exploratoire des nouvelles formes de diffusion et de production artistique, parce que ce système pile dont je parlais tout à l'heure rentre dans ces trucs-là. On travaille aussi sur mettre dans le domaine libre des techniques, par exemple pour de l'argentique, comment on développe les photos, enfin des techniques comme ça, comment on sérigraphie, comment on fait des t-shirts, comment on fait de l'impression, etc. Il y a pas mal de trucs qui sont des fois moins dispo, qu'on a besoin d'apprendre en autodidacte en faisant des recherches, qu'on mettrait à dispo des ressources comme ça immédiates. Moi, c'est comment on alimente les synthétiseurs en pleine nature, comment on fait de la lumière qui réagit au son, comment on utilise des capteurs pour utiliser la température ou l'humidité extérieure pour jouer de la musique, par exemple. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on est en train de construire, d'écrire, pour mettre à dispo ça. Et derrière, c'est surtout une équipe qui est complète et qui peut venir en aide à d'autres projets artistiques aussi. On a un peu cette forme de cabinet de conseil en culture alternative et low-tech. On sait faire de la vidéo, on sait faire du film, on sait faire de la musique, on sait créer des outils pour spectacle vivant. Donc pourquoi pas mettre à dispo ça pour les gens. Donc c'est un peu ce projet-là qu'on est en train de construire. Et le statut de l'asso fait qu'on peut à peu près tout faire, quoi. On peut accompagner des projets, on peut faire de la transmission. Moi je fais beaucoup de conférences sur la low-tech, sur l'art numérique sobre, etc. On peut vraiment organiser des festivals, par exemple. Donc, on a un peu c'est mouvant et ça dépend un peu des envies de chacun, chacune sur le moment. Mais on est vraiment sur de l'exploration de qu'est-ce que ça va être l'art de demain et surtout dans la musique électronique, dans plein de choses comme ça.
Bah là, on va parler un petit peu aussi de ta discographie. Là. Donc, tu as fait plusieurs albums EP. Alors, tu avais fait Autumn Breath en novembre 2019.
Bah, c'est le premier voyage qu'on a fait avec cette team qui n'était pas encore Moss Explorer. Où, en fait, chaque jour, on enregistrait un morceau en pleine nature. Donc, en fait, le concept de l'album, c'est que à chaque morceau, c'est une journée de rando où je m'installais et je composais un morceau dans la montagne, quoi. Donc au final, ça a donné cet album. Et il y a aussi un remix par Benoît Piullard, qui est un artiste que j'adore dedans. Et chaque morceau est une performance aussi filmée, qui est dispo sur la chaîne YouTube. Donc il y avait un peu cette co-création de on a fait tout ça, bah, je le mets à plat et ça donne cet album, quoi.
Ensuite, il y a eu, donc ça sonne un petit peu plus peut-être sieste musicale, enfin, je me trompe peut-être. Donc il y a musique douce pour jardin, donc c'est ces trois titres que tu as pu mettre en œuvre, hein, produire. Donc là, c'est pareil, est-ce qu'il y a une histoire ou pas du tout?
Bah ça, c'était pendant le Covid que j'avais composé en fait dans mon jardin. Moi j'étais en cours, j'allais pas trop en cours parce que ça me saoulait. Du coup, je me posais avec mon synthé dans le jardin et en fait je faisais de la musique pour les plantes parce qu'il y avait personne. Donc j'ai issu trois titres de ça parce qu'elles sont aussi filmées. Et l'idée, c'était de les partager. Il y a moins d'écriture que sur Autumn, c'était plus une espèce de journal de bord. Parce que donc j'en ai gardé que trois, mais il y en a une cinquantaine de morceaux comme ça, musique douce pour jardin, qui dorment sur l'ordi. Mais c'était vraiment. Sur ces albums-là, c'est vu que c'est dispo aussi en vidéo. Il y avait ce truc-là, que c'est cool si c'est aussi dispo ensemble dans un package pour les gens, parce que la vidéo se sépare un peu l'œuvre qui est un album, qui est une construction, une écriture, une histoire, de juste une vidéo performance où on voit les fils, etc. Donc c'était juste l'occasion de mettre ensemble tout ça, quoi.
Alors après, tu as produit un album sur le label Mare Nostrum de Gaëtan et Alexandre, nos amis savoyards. Donc là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier? Tu souhaitais peut-être produire sur un label. Comment ça s'est passé?
Alors, déjà, c'était pas le premier album que je faisais avec un label. En fait, c'est le troisième. Quand j'étais au lycée, en terminale, j'ai sorti mon premier album qui s'appelle The Riff et qui est pas dispo sur le nom Tom Leclerc, en fait, c'est pour ça. Il est dispo sur le nom Tomcat. Parce que Tomcat, moi j'avais une drum machine qui s'appelait la Tomcat, et du coup je m'étais appelé Tomcat. Voilà, j'étais pas allé chercher bien loin. Et en fait, cet album, je l'ai enregistré en studio avec des machines totalement différentes de ce que j'ai maintenant. Il y avait un Nord Electro, un Blofeld, une drum machine analo, enfin c'était. Un Rhodes par exemple, c'était très différent. Et j'ai décidé de le entièrement le recomposer et le réenregistrer avec mes instruments du moment, ce qui a donné l'album Sun, et dans lequel j'ai rajouté deux trois autres morceaux en plus. Mais en fait, c'est que des recompositions de mon premier album avec le Prophète 6 et le piano. Donc c'est un album qui me tenait à cœur, un peu en mode témoignage de ce que je faisais au début. Que je n'acceptais plus et que j'avais envie de remettre à mon goût du jour, quoi.
D'accord, donc Tomcat aussi, c'était un projet ambiant ou...
Non, c'était de l'électro, l'électro cinématographique, si on peut dire.
Après, il y a eu, alors j'écorche peut-être le nom, Kerderi, ça sonne un petit peu breton, je ne sais pas si c'est le cas. C'est un EP ou un album de 6 titres, je crois, en mai 2022, donc c'est assez récent.
Diary, en fait, c'est un concept de j'enregistre en un jour un album. Je suis parti avec mon vélo enregistrer les sons au bord de la mer, du faire du field recording et faire un peu de photos, etc. Et j'ai une lubie et je me suis dit, vas-y, avec toute cette matière que je viens de récupérer là, je vais aller faire un album tout de suite. Et du coup, les six titres sont sortis directement après dans la soirée, quoi. Et j'ai mixé, masterisé pour le sortir 2 jours après sur Bandcamp. Donc c'était vraiment ce truc-là, se donner un défi. Et c'était dans une période où moi j'étais à Concarneau dans le Finistère en Bretagne. Donc c'est une période qui a beaucoup marqué le passage artistique que j'ai eu, les nouveaux projets, etc. Donc j'avais envie un petit peu de rendre hommage à ça et de faire ce projet qui est à la fois une performance et un défi et un album.
Thank you.
ça montre un petit peu ton cheminement, tes voyages. Donc, ensuite, il y a eu, c'est le dernier album en date qui est paru en CD en édition limitée, Blue Guitaring, sur le label Chiming Moods. Donc ça, c'est pareil, que c'est un projet que tu avais en tête depuis un petit moment. Enfin, comment ça s'est passé? Comment ce projet a mûri, justement?
Cet album, c'est l'album que j'avais enregistré pendant le film qu'on a tourné avec Moss Explorer. La plupart des morceaux, sauf deux au piano que j'ai, dans trois au piano que j'ai enregistré par la suite. Deux semaines après être rentré, quoi. Donc c'est un peu le témoignage en fait de cette période, de ce moment-là, que j'avais absolument envie de sortir en physique aussi pour cette release. Donc il y a des CD et des cassettes aussi. Et j'avais envie de sortir ça parce que pour moi là c'est un des albums les plus écrits que j'ai pu faire. Parce que en termes de composition, de voyage, de ressenti qu'il y a sur cet album, j'ai essayé de balayer tout ce que je ressentais sur le moment et sur l'après. J'avais aussi envie d'avoir quelque chose qui me parle, qui raconte une histoire, etc. Et moi j'aime bien figer aussi des fois les sons que j'avais, parce que vu que je fais du modulaire en fait, les sons que j'ai évoluent très rapidement parce que j'ai des nouveaux modules, etc. Donc faire des albums quand j'avais l'impression d'être arrivé à un stade où j'étais un peu bloqué dans ma configuration, j'avais envie de figer tout ça dans un album, dans les sons qui me ressemblaient à ce moment-là, pour pouvoir un petit peu passer à la suite, quoi. C'est un album de transition que j'ai mis du temps à sortir parce que j'ai eu beaucoup de travail sur son écriture, sur la post-production aussi de cet album, sur aussi les visuels qu'on a conçus avec Nathan autour de ça. Et j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de complet dont je puisse être fier aussi, et qui soit pas juste un album concept en mode l'enregistrement d'une journée ou c'est juste un voyage, j'ai fait plein de vidéos, je mets toutes les vidéos en son aussi dispo. Là c'est que des morceaux qui sont pas dispo en vidéo, donc il y avait un peu ce travail là que j'avais envie de faire.
Ouais, est-ce que c'est aussi de marquer, on va dire, cet album par un objet, si je puis dire, soit en CD soit en cassette?
C'était un petit peu, s'il n'avait pas de sortie physique, l'album ne sortait pas, parce que j'y voyais pas d'intérêt. J'avais vraiment envie d'avoir un objet figé, parce que chaque fois que j'ai sorti un album en version physique, c'était vraiment un passage, que ce soit de configuration matérielle, dans ma vie, etc. Donc j'aime bien marquer ce moment-là par une cassette ou là un CD. Et parce que moi je suis assez fan des cassettes, de l'objet, de comment ça se réécoute et à quel point l'objet est intime derrière aussi, parce que selon le lecteur, on n'a pas la même écoute. Donc il y avait ce truc-là qui allait bien avec la philosophie du projet aussi.
Et du coup, toute ta discographie, de soi, où est-ce qu'on peut la trouver pour les auditeurs qui souhaitent se procurer tes différents EP, albums?
On peut la retrouver sur Bandcamp, sur Tom Leclerc. Ou sur les plateformes de streaming, on peut l'écouter. La plupart des morceaux sont disponibles aussi sur les plateformes de streaming standard. Tom Leclerc, c'est pareil.
Et donc, en ce mois de février et pour l'année 2023, est-ce que tu as des événements à venir? Est-ce que tu peux nous en parler, ou ça reste pour l'instant top secret?
Non, il n'y a rien de secret. Comme je te disais, moi je suis en train d'écrire les articles sur toute ma configuration pour la rendre libre, accessible, que ça soit la lumière ou l'énergie. J'ai aussi un album qui est en cours d'écriture et que je vais aller enregistrer en février en montagne. Donc je retourne en montagne une semaine pour enregistrer cet album et aussi faire un documentaire sur le process de tout ça, un documentaire photo-vidéo. Donc j'ai ces gros projets dans le collimateur. J'ai aussi quelques concerts que je suis en train de préparer, surtout à Nantes, mais peut-être aussi à Paris. Donc j'ai un peu tout ça qui se construit. Il n'y a rien encore de figé en fait. C'est l'avantage quand on fait de l'impro, c'est que en fait il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver assez tardivement. Donc surtout un nouvel album et puis ce documentaire qui va suivre aussi.
On peut aussi te retrouver sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'est quand même ma vitrine. Moi, je fais beaucoup de vidéos YouTube. Ben, en fait, j'ai pas de nom d'artiste. Enfin, mon nom d'artiste, c'est mon vrai nom, c'est Tom Leclerc. Et sur Instagram aussi, où c'est corrélé, en fait, à chaque fois, les vidéos sortent sur les deux plateformes. Donc là, c'est soit des morceaux, soit des petits tutos. C'est assez, assez varié, mais en tout cas, souvent, c'est moi qui joue en pleine nature.
D'accord, très bien. Bah écoute, merci Tom d'avoir répondu à l'invitation d'Ambiante Memory. Voilà, bah, écoute, toutes les informations disponibles sur tes profils et bien sûr, il y aura les liens qui seront sur les différents posts Facebook et Instagram d'Ambiante Memory. Bah, merci beaucoup, merci à toi.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Bah, je t'en prie, à très bientôt. Thank you. se termine. Vous avez pu écouter dans l'ordre de diffusion Musique douce pour jardin, Care Diary 1, Minéral Sonata, Neptune et Forest Bean. Toutes les informations sont disponibles sur le compte Facebook et Instagram d'Ambient Memory. Vous pouvez aussi obtenir tous les renseignements que vous souhaitez sur le contact Bandcamp de Tom Leclerc et sur son compte Instagram. Je vous donne rendez-vous quant à moi la semaine prochaine pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.
Ambient Memory sur Radio Gravity.